15h43. Qu'est-ce qui se passe sur les routes, Audrey?
Peut-être commencer par la capitale ouest, début de la desserte pour Robert Bourassa. Sachez que la voie droite est partiellement entravée. C'est une panne. Le remorquage est en cours au moment où on se parle. Des incidents un peu plus tôt sur la capitale, ce qui fait que ça ralentit. Direction est entre Henri IV et Laurentienne. Direction ouest entre Bourg-Royal et Laurentienne. Et des problèmes si vous êtes sur Robert Bourassa, direction nord entre Charest et la capitale. Et c'est au ralenti aussi sur Henri IV sud. À partir, là, je vous dirais, de chemin Sainte-Foy, ça commence à ralentir jusqu'à l'entrée du pont Pierre-Laporte. Pour ce qui est de la rive sud, 20 direction ouest, c'est surtout entre chemin des Îles et Taniata. Évidemment, il y a quoi que ce soit d'autre, 88-971-1021 par texto.
Hey kids, vous êtes prêts pour votre leçon de finance et fiscalité?
Je vous demande de vous arrêter.
Mais voici Alex Legault.
Notre planificateur financier préféré ou le seul qui accepte de venir nous voir, Alex Leblon, salut man!
Salut!
Ben ça va?
Ça va vous autres?
Oui, ça va. Hey, j'ai l'impression que tu vas nous brasser un petit peu aujourd'hui.
Oh ouais. Ça va faire mal.
On n'y va pas avec le dos de la main morte, là, comme disait l'autre. C'est quoi que tu nous proposes comme sujet aujourd'hui?
Ben, l'idée de départ vient de clients à moi, puis de gens que je connais, qui de plus en plus, il y a comme une genre de démocratisation de tout ce qui est investissement. Des gens veulent soit faire leurs investissements par eux-mêmes ou une partie, puis commencer à acheter puis vendre des actions. Fait que je me suis dit qu'on pourrait faire un genre de 10 commandements du nouvel investisseur autonome, du nouvel investisseur du coup.
Est-ce que le buzz crypto-monnaie a amené beaucoup de ces nouveaux investisseurs-là, mettons, dans les 10 dernières années? Tu sais, c'est des affaires qu'on voit beaucoup passer sur les réseaux sociaux, c'est à la mode un peu.
Ouais.
Puis... Oui, hein?
Ça en fait partie, mais pour vrai, il y a... On dirait que les gens qui sont là-dedans, si tu parles de la crypto, là, ils parlent très fort. Fait que tu as l'impression qu'ils représentent un gros pourcentage.
Oui.
Mais en réalité, c'est bien rare que tu vois des gens qui sont beaucoup investis là-dedans. Là. Okay. Des fois, dans des portefeuilles, tu vas avoir un 3-4%, mais des gens qui sont all-in là-dessus, ils parlent fort, mais en pourcentage là, dans la population, c'est pas beaucoup de monde.
Le fait que ce soit accessible, les applications puis toute l'équipe, j'imagine
ouais.
que ça joue pour beaucoup. Tu as
ben
l'impression
oui.
que tu l'as au bout des doigts, tu es capable de tout suivre.
Ouais.
Plus qu'avant, quand tu devais appeler pour pouvoir faire des changements.
C'est ça, tu étais vraiment dépendant de tout ce qui est, mettons, institution plus traditionnelle. Là, à ça, tu peux avoir cette autonomie-là, puis ça coûte moins cher. Par contre, il y a comme, il y a des stats, là, essentiellement dans les 20 dernières années, là, prends le SP500, l'indice des 500 plus grandes entreprises cotées en bourse aux États-Unis, ça a fait grosso modo 10 % en moyenne.
De rendement?
Oui.
OK.
Annuellement.
Oui.
L'investisseur moyen, il a fait 3,6.
Oh, OK. Fait que l'investisseur moyen, il est très moyen, là.
Ben, tu dis comment un investisseur qui investit dans un actif qui a 10 % de rendement peut faire 3,6? Fait que ça veut dire que quelque chose qui s'appelle la pénalité comportementale.
Oh.
Tu vends à mauvaise place, tu achètes à mauvaise place, tu es toujours comme un petit peu en retard sa vague. Fait que ça surfe pas fort, tu sais.
Donc, grâce à ces 10 commandements-là, on va peut-être réussir à se démêler un peu. Puis, je trouve que tu commences rough and tough, mais jaillis pas ça non plus. Ton commandement numéro 1?
Ouais. Si tu veux jouer, download Candy Crush. L'idée, moi, j'aime pas ça.
On joue pas à la bourse, c'est ça que tu veux dire?
Exactement. Ouais. L'idée de jouer à la bourse, là, c'est... Je trouve ça important de le dire parce que quand tu es sur une plateforme de courtage où tu t'en vas acheter des actions, ce que tu fais, c'est que tu sélectionnes, je sais pas moi, Amazon, Walmart, Lyon Électrique, peu importe quoi, puis tu deviens actionnaire de la compagnie.
Ouais.
Fait que c'est quand même quelque chose, c'est big, là. Fait que tu sais, si tu achètes 50$ Amazon, ben t'as... Tu ne pointes-toi pas au CA avec tes 50$ d'action.
Tu n'as pas de vote. Là.
Ouais, ben, tu parleras pas fort. Mais
c'est pas comme, c'est pas comme gager sur une game du Canadien le soir.
Oui, mets-toi en arrière. Mais tu sais, l'idée, c'est de dire, hey, quand je sélectionne un employeur, là, je veux ma prochaine job, tu ne vas pas acheter la première qui a l'air de pas pire, puis oh, je vais postuler là pour voir ce que ça fait. Mais sélectionner des compagnies, c'est la même chose. T'sais. Si tu dis, hey, je veux faire du rendement, je veux faire du profit, je veux investir, mais si tu as un mindset de « hey, je vais jouer », mais ça risque de pas fonctionner.
Commandement numéro 2 du nouvel investisseur boursier, Alex.
Ouais, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? L'idée derrière la question, c'est de dire, quand tu as une position...
Qu'est-ce que tu fais là? Je fais une transaction, yo!
Si tu détiens quelque chose, puis ça, je l'ai vu des fois que je me fais envoyer... Mettons, je sais pas, c'est beaucoup arrivé des gens qui étaient, mettons, sur... Wealthsimple, peu importe la plateforme, qui est une plateforme de courtage,
okay.
qui sont tannés, puis qui voulaient comme quelqu'un d'autre gère ça. Fait qu'ils m'envoient le relevé, puis là, il y a plein de positions là-dedans. Il y a un paquet de compagnies, puis il n'y a pas vraiment de suivi. Puis je pose la question, pourquoi tu es là-dedans? Puis souvent, la réponse était, hey, ben, y a un gars sur le chantier qui m'a parlé de ça. Pis
ouais.
pas une réponse valable. Mm-hmm. Puis un exemple qu'on a vu beaucoup, puis ça, je l'ai vu dans plein de relevés de plateformes de courtage, là, c'est le fameux Lion électrique.
Ben écoute, il y a eu des témoignages à crever le cœur dans les journaux dans les dernières semaines. Là, un monsieur est immigré de l'Italie qui a tout perdu son fonds de retraite là-dedans en disant, ben moi, j'ai cru, puis j'ai cru mon gouvernement.
Le gouvernement qui a quasiment dit, prends ça en mettant de l'argent dedans, tu sais.
Ouais. Oui, mais ça. Tu sais, puis c'est drôle parce que j'en avais un l'autre fois relevé de plateforme de courtage, puis le client, il était à moins 99,16% sur Lion électrique. Oh. J'ai juste dit, garde, veux-tu qu'on en parle ou on passe au prochain? pas obligé d'en parler.
Je pense qu'il est au courant déjà que c'est humiliant.
Comment ça fonctionne, Alex? J'ai comme aucune idée de comment ça marche. Mettons que tu mets 50$, justement, peu importe. Là,
dans Lion électrique.
Ouais, dans Lion électrique. Ouais. Est-ce que tu peux...
Il est trop tard, by the way.
Ben non, oui, mais c'est un bon exemple pour
ben,
ça.
Il y en
mais...
a qui jouent avec les penny stocks. Que...
mais comment ça fonctionne? Tu peux-tu juste tout le temps gagner ou pas? Ou tu perds aussi?
Rends-tu en bas de zéro, mettons?
Ben, mettons que, prenons cet exemple-là. J'achète, on est aujourd'hui, j'achète pour 50$ d'action de Lion électrique. Cette action-là est transigée publiquement, fait qu'elle va bouger. Ça se peut qu'elle monte, ça se peut qu'elle descende. Puis on y viendra plus tard, là, mais l'idée, là, c'est que à seconde où tu es investi sur les marchés, de quelque manière que ce soit, ça vient avec un risque. Ça, des fois, il y en a qui disent hey, ben, cette action-là, c'est pas risqué. Puis, impossible.
Il y a un risque.
C'est, si tu veux pas de risque, reste chez vous. Là. Puis mets ton argent en dessous du matelas. Puis c'est la seule manière de pas courir un risque sur les marchés, de quelque manière que ce soit. Là.
Avant qu'on passe au commandement numéro 3, tu réponds quoi à des gens qui disent ouais, mais mon gouvernement, il investit là-dedans. Ils ont dû faire les recherches comme faux, eux autres. Tu pars à rire ou c'est.
Ben, c'est pas un. C'est correct de penser ça, mais il faut toujours le mettre dans son contexte. Tu sais, le gouvernement, lui, sa job, c'est... Puis on peut être pour ou contre cette mission-là, on peut trouver que ça ne fait pas de sens, mais lui, il a un portefeuille, puis il va allouer certains pourcentages de ce portefeuille-là à différentes classes d'actifs.
Ouais.
Il y a une partie de son portefeuille avec laquelle il peut prendre plus de risques. Investir dans des nouvelles technologies, investir dans des jeunes compagnies. Lion Electric, c'était ça. Fait qu'essentiellement, l'année où ils ont investi dans Lion, ça représentait, grosso modo, 2,3% de leur budget investissable.
Ils n'ont pas tout investi dans Lion électrique.
Exact. Moi, ouais. ce dans quoi je mets 2,3% de mon portefeuille, c'est les actifs que je considère les plus risqués. Fait que je ne mettrais jamais 45-50% de mon portefeuille là-dedans parce que je le wash, là. Fait que le gouvernement, il a investi là-dedans, mais c'est pas comme le monsieur, justement, dont tu parles, que lui, il avait tous ses œufs dans le même panier. Ça, c'est la pire affaire, là.
Écoute, au nombre de fois que j'ai entendu le mot diversification, je me dis que la pire chose à faire, c'est de tout mettre ton argent à la même place, là.
Exactement.
De façon générale. Commandement numéro 3?
Ouais. Numéro 3, c'est ride or die.
Oh yeah!
L'idée, c'est de dire, quand t'achètes une action, puis ça, c'est Warren Buffett, il en a beaucoup parlé, là, si... Tu, justement, tu es sur ta plateforme, là, tu as toutes les compagnies qui sont transigées publiquement à ta portée. Là. Tu peux acheter n'importe quoi. Là. Si tu achètes une action, il faut essentiellement que tu te dises « je suis capable de la garder pendant 30 ans ».
Tu ne gères pas ça à petite semaine. Là. Tu ne feras pas un coup d'argent en l'espace de 2 semaines en disant « je vais être capable de couvrir mes dettes avec ça ».
Exactement. Puis si tu dis « hey, ça, c'est une compagnie de qualité en laquelle je crois puis je vais la garder pendant 30 ans », ce que ça veut dire, c'est que les moments où, temporairement, le cours de l'action va reculer beaucoup, bien, toi, il faut que tu restes au party.
Tu as des bons exemples, je pense, de ça. Hein?
Ben oui. Tu regardes juste l'année 2022. C'est une des pires années en bourse depuis 1945. Fait que c'est vraiment des données aberrantes, mais je peux pas les enlever et dire que c'est pas arrivé parce que c'est arrivé. T'sais. Meta, qui est Facebook essentiellement, moins 64 %. Amazon a perdu 50 % de sa valeur en 2022. Puis Google a perdu 39 % de sa valeur en 2022.
Moi, c'est pour ça que je joue pas à bourse, by the way.
Toi, tu paniquerais à ça?
Moi, je vois ça, puis ça m'empêche de dormir la nuit.
Ben,
j'ai pas assez confiance, tu sais.
C'est la notion entre le court terme et le long terme.
Mm.
À court terme, là, le marché est super volatile et très, très, très réactif aux nouvelles économiques, comme les tarifs de Trump, si ça arrive pour de vrai le 1er février. Ben là, ça va faire bouger les marchés.
C'est sûr.
À la hausse ou à la baisse, dépendamment de où est-ce que tu te trouves là-dessus. Fait que ça, c'est le court terme. C'est pas très rationnel. À long terme, il y a une corrélation presque parfaite entre les profits des entreprises dans lesquelles tu investis et le cours de leur action, leur rendement. Fait qu'à court terme, peut-être qu'une de tes positions peut perdre 20, 35, 40. Mm. Amazon a déjà perdu 80 % de sa valeur en une année. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise compagnie. Fait que l'idée de dire « Hey, moi, je t'ai investi pendant 30 ans. OK, Trump, il met des tarifs. Le cours de l'action canadienne dans lequel j'investissais, à perd 15 %.
Je bouge pas.
Trump, il n'y a pas de long terme. Là. C'est un bonhomme sénile de 78 ans qui est là 4 ans. Là. Fait que si toi, tu dis « Je suis là pour 30 ans », ce petit bump-là de 15 % peut-être
c'est
à court terme,
anecdote, là.
C'est une anecdote. Mm. Fait que si toi, tu es super stressé, tu dis « Je le vends tout de suite », bien, assurément que, on parlait tantôt du SP qui fait 10 puis de l'investisseur qui fait 3,6.
Ouais. Bien, la différence est là.
La pénalité comportementale est là. C'est que lui, en 2022, il a vendu.
On fait le tour de ce que tu appelles les 10 commandements du nouvel investisseur boursier. Commandement numéro 4.
Ouais, ton beau-frère va te tuer. j'entends souvent des histoires de même. Là, de mon cousin m'a dit telle affaire, puis mon cousin m'a proposé tel truc.
Il a fait de l'argent là-dedans, lui.
Ouais. Puis ça, on l'a vu un petit peu avec, justement, tout ce qui est... Il y a beaucoup de crypto-monnaies qui ont été lancées dans les derniers jours, dans les dernières semaines. Là.
Ouais.
Généralement, là, quand tu entends parler de quelque chose, le party a commencé longtemps avant que tu arrives.
Il est trop tard déjà.
Il y a un délai, c'est sûr, avec ça se rend dans nous autres qui ne sommes pas là-dedans.
Tu arrives au party, puis ils te donnent un sac de poubelle, puis c'est l'heure de ramasser. T'es vraiment en retard. Là.
Comment tu appelles ça? C'est le biais de référence?
Le biais de récence.
De récence.
En français, ça sonne moins big qu'en anglais. Là. Mm. En anglais, c'est « recency bias ». L'idée, c'est de dire, prenons le marché américain. Le marché américain, là, je vais prendre le SP500, les 500 plus grosses compagnies. Depuis 2010, là, c'est de shit. Là. C'est la chose qui a plus performé. Puis là, tout le monde est surpondéré dans le marché américain parce que c'est ce qui a été le plus haut dans les dernières années. Quand tu regardes la décennie juste avant 2010, tu sais, 2000 à 2010, bien, le marché américain a été le pire après celui du Japon. Mm. C'est le Canada qui était numéro un. Fait que tu sais, il n'y a pas de constance entre ce qui est hot aujourd'hui et ce qui était hot hier. Fait que l'idée de dire « Hey, la position que je prends, je me mets des œillères puis je la considère seulement pour ce qu'elle est puis je regarde pas ce qui s'est passé hier. Ou... » Fait que c'est ça l'idée. Parce qu'à court terme, comme on disait, les marchés sont pas raisonnables.
Ouais. Mais c'est ça qui est le plus dur, je trouve. C'est que si tu es le seul responsable de l'argent que tu places, le réflexe que tu as, c'est d'aller voir à tous les jours. Puis si tu vois à tous les jours ce qui se passe, c'est là que tu vas avoir le stress de dire « Oh, tabarnouche, je suis en train de perdre de l'argent là. Je suis mieux de déplacer ça, puis ainsi de suite. » Puis je pense que le marché est fait un petit peu comme ça aussi, là, pour pénaliser les gens qui ne sont pas capables d'être prudents. Moi, en le sachant, là, tu sais...
Tu touches pas à ça.
Non. Puis deux, trois fois par an, on me dit, bon, ben ça, voilà. Là, globalement, là, ton portefeuille a fait ce rendement-là ou ça a été une année plus difficile, ton portefeuille a baissé un peu.
Mais voici notre projection quand tu vas prendre ta retraite.
C'est ça. Mmh. Fais ce que tu veux avec ça, mais globalement, c'est de même que ça s'enligne. Ça, moi, ça me rassure un petit peu.
Ça, c'est vraiment intéressant que tu en parles parce que Fidelity, qui est le plus gros gestionnaire privé de portefeuille sur la planète, essentiellement, du moins en Amérique du Nord, là, ils ont fait une étude puis ils voulaient voir, hey, nous autres, on a des centaines, ils ont peut-être des millions de clients, je ne sais pas ils en ont combien, mais ils voulaient voir c'est qui a fait le plus de rendement.
OK.
Puis il y avait deux catégories de clients qui se démarquaient systématiquement les autres, c'était les clients qui étaient morts, puis que la succession s'est jamais réglée.
Okay.
Puis les clients qui avaient oublié qu'il y avait un compte. Fait que qu'est-ce que ça dit, ça? Ça veut dire que...
Bouge pas!
Le dude qui a oublié qu'il y avait un compte, ouais. Là, lui, il sait pas que ça a perdu 40%. Il sait même pas qu'il y a un compte. Fait que tu sais, lui, il a jamais... La pénalité comportementale dont on parlait, elle s'applique pas à lui. Fait que t'as toujours deux extrêmes. Là. L'idée, c'est pas de dire supprimer toutes vos affaires puis aller jamais voir.
Il y a quand même une leçon à retenir de ça. Là.
Ouais.
Commandement numéro 5.
Steak, bledin de patate.
La base?
Tu veux quelque chose de simple. Mm. Puis là, ça, c'est Warren Buffett qui l'a dit aussi.
Non, je suis pas mal sûr de sa petite vie, ça.
Ouais,
c'est correct. C'est correct.
On a chacun nos référents. Tu sais, si tu investis dans une compagnie, faut que tu sois capable d'expliquer son modèle d'affaires à l'intérieur d'une phrase.
Oh.
Si c'est compliqué. Pis,
oh, je me sens disqualifié.
Le revenu vient de là. Pis, non, mais ExxonMobil, c'est facile. C'est du gaz.
Ouais.
That's it. Amazon, ben là, tu vois, ça, c'est plus compliqué. Il y a des ça veut pas dire de pas investir dedans, mais il faut que tu comprennes la mécanique. Amazon, justement, c'en est un exemple.
C'est Warren Buffett, c'est
ouais, mais tu sais, t'as AWS, ouais. t'as beaucoup de couches là-dedans. Là. Toutes les compagnies techno au début des années 2000 qui explosaient, mettons, Warren Buffett, lui, touchait pas à ça qu'une perche de 100 pieds parce qu'il était pas capable d'expliquer la profitabilité de tout ça. Il disait, c'est pas parce que t'as .com dans le nom que ça fonctionne. Fait que lui, pendant des années, il n'a pas investi là-dedans. Finalement, une fois que les modèles d'affaires se sont clarifiés puis que les sources de revenus sont devenues beaucoup plus disons, simple à comprendre puis récurrente. Là, il s'est mis à investir là-dedans. Mais tu veux quelque chose de simple. J'écoutais une entrevue avec Mark Carney, là, l'entrevue qu'il a faite avec John Stewart, là, puis lui qui a été gouverneur de la Banque du Canada.
C'est lui qui est candidat à la chefferie du Parti libéral.
Oui, exactement. Il était gouverneur de la Banque du Canada en 2008. Puis au Canada, nous autres, on n'avait pas eu les problèmes de tous les produits compliqués aux États-Unis, là, d'hypothèques packagées qui étaient revendues. Puis John Stewart, il demande hey, « Pourquoi vous n'étiez pas là-dedans, vous autres? Pourquoi vous étiez comme protégés de ce marché-là? » Puis Mark Carney, il a dit « Parce qu'on ne le comprenait pas. »
On n'a pas touché à ça.
On se faisait expliquer contre le produit, puis on était comme « Je comprends pas. »
Fait que des fois, je comprends pas, tu veux j'investis
faire...
pas.
Exact. Tu veux faire semblant de comprendre parce que tout le monde le fait, je vais le faire. Mais c'est le même principe pour des compagnies. Il faut que tu comprennes exactement l'argent vient d'où, les dépenses sont où, le profit vient d'où. Puis si tu comprends ça, puis tu es à l'aise avec ça, mais là, c'est peut-être une bonne compagnie dans laquelle investir.
Il y a une question d'auditeur. Pour quelqu'un qui commence des fractions d'actions, ça peut-tu aider?
Ben, les plateformes de courtage te permettent de faire ça, là. Je te donne un exemple. Si toi, tu dis... Prenons l'exemple encore de Warren Buffett. Moi, j'admire sa philosophie d'investissement. Je veux acheter des actions dans sa compagnie. Mais une action de Berkshire Hathaway, c'est... En tout cas, je sais pas c'est quoi aujourd'hui, là, mais c'est à peu près 330 000 piastres US.
Wow! OK, ouais.
Fait que, tu sais, à la place d'acheter une action à 330 000 US,
on en prend un petit bout.
Des fractions d'actions. Mm. Fait que, d'un point de vue mathématique, là, ça va être la même chose, là, mais c'est juste tu peux acheter... T'sais, Amazon, Apple, c'est toutes des actions qui valent plusieurs milliers de dollars. Là, fait que tu peux acheter des fractions.
OK. On est avec Alex Leblond, planificateur financier. On fait le tour de ces 10 commandements du nouvel investisseur boursier. On est rendu, mon Dieu!
C'est mon préféré.
Au commandement numéro 6, Alex.
Un cochon maquillé, ça reste un cochon. Puis ça, je reviens à la base de pourquoi je peux acheter des actions de Amazon, mais je ne peux pas acheter des actions de Leclerc Communication? Qu'est-ce qui détermine si je peux... Mettons une compagnie qui est...
C'est parce qu'on n'est pas solvable?
Non.
Non, c'est pas ça. OK, c'est beau. Cool.
Jeff Bezos, il lance Amazon. Puis à un moment donné, il se dit, ben regarde, moi, je veux lever du capital. Je vais aller chercher de l'argent. Fait que je vais, il appelle ça go public. Là. Je vais faire un appel public à l'épargne. Puis là, je le simplifie, là, mais les gens, ils vont pouvoir acheter des actions dans ma compagnie. Moi, ça me fait un paquet d'argent. Puis je vais pouvoir me financer avec ça dans le futur. Il y a des compagnies, des fois, puis justement, toutes les startups, ça arrive souvent, ils vont faire un appel public à l'épargne. Fait que là, soudainement, tu vas pouvoir acheter des actions de cette compagnie-là. Mais tout ce qu'ils font essentiellement, c'est prendre leur risque puis le partager avec toi. Ils n'ont aucune espérance de profitabilité. C'est juste que ça leur prend du cash. Ils savent qu'ils peuvent aller public. Il y a un buzz autour d'eux autres.
Fait qu'ils vont aller te chercher l'argent qu'ils ont besoin.
Exact. Fait qu'à la place de prendre tout le risque eux-mêmes, ils prennent ton argent puis ils partagent le risque avec toi. Puis un exemple que je trouve vraiment bon, c'est une compagnie qui s'appelle PDD Holdings, qui est listée depuis 2018. C'est la compagnie derrière Temu. Temu, tout le monde connaît ça, je pense, maintenant. Là, c'est les prix dérisoires. Puis là, tu te demandes, comment ils font pour faire de l'argent? La réponse, c'est ils n'en font pas. La stratégie d'affaires, c'est que en moyenne, sur chaque transaction, ils perdent 30$.
OK.
Fait que l'idée, c'est de dire, ben, PDD, quand ils se sont lancés publiquement, ben, tout le monde a mis de l'argent là-dedans. Fait que le 30$ qu'ils perdent sur chacune des transactions, ben, c'est essentiellement une partie de l'épargne que tout le monde a mis là-dedans.
OK.
Fait que tu ne veux pas aller prendre le risque à la place de ces compagnies-là. T'sais, quand une compagnie se lance en bourse et public, il faut déjà que tu sois capable de dire, hey, voici comment ils vont devenir profitables, puis moi, j'embarque là-dedans. PDD Holdings puis Temu, il n'y a aucune espérance de profitabilité. Là. À moins de prendre comme 80% des parts de marché, c'est mathématiquement impossible de devenir rentable.
Okay. C'est difficile parce que là, faut que tu guesses, mais en même temps, tu ne veux pas manquer à parade puis être trop tard puis avoir attendu qu'une compagnie fasse ses preuves.
C'est pour ça que tu ne joues pas.
Ben, je pense que pour ça, j'en ferai pas de bourse.
Bienvenue dans le club!
Tu peux jamais être trop en retard. Tu sais, Warren Buffett, là, il a acheté Amazon en 2019.
Ça faisait longtemps que c'était là, Amazon, pourtant.
Je pense que c'est devenu public en 97. Fait que, tu sais, lui, il n'a pas appris en 2019. Amazon, c'est quoi ça? Il savait c'était quoi en 97, là?
Il s'en met fier rendu là, puis okay, attendu.
Puis Amazon, ça a été non profitable pendant des années et des années. Puis là, 20 ans essentiellement après que l'action soit devenue publique, il s'est dit « Parfait, voici le revenue stream, voici comment ils sont capables de générer des profits, je suis capable de faire 1 plus 1 égale 2, j'investis. » Ça a pris 20 ans avant d'arriver là, là. Fait que tu peux jamais être trop en retard. Moi, t'es mieux d'attendre, de bien comprendre, parce que les occasions vont se représenter dans le futur.
Commandement numéro 7, le syndrome Breaking Bad.
Ouais, Breaking Bad. Parce que je suis en train de le réécouter. Puis,
c'est encore bon? Donné,
tu sais, quand il se met à travailler avec Gus Fring,
oui.
Là, essentiellement, il double le prix. Mm-hmm. Ouais, il double le prix de sa marchandise. Là. Puis la logique derrière ça, c'est de dire, hey, le produit est tellement bon.
Là, tu parles du produit, le poulet ou ce qu'il y a en dessous du conteneur
le
à poulet?
Le produit bleu.
OK, oui.
Tu sais où, t'as l'espèce de buanderie, là, puis il y a dans le sol, ce produit-là. Fait que c'est un gag, là, mais le produit, il est tellement addictif puis il est que les ventes viennent avec.
Ouais.
Fait que tu veux ce genre de produit-là. Fait qu'on s'entend, Los Pollos Hermanos ne sont pas en bourse. Là. Tu ne peux pas acheter ce type de produit-là. Mais je prends l'exemple de Microsoft.
Okay.
Puis là, tout le monde haït Teams parce que ça te fait penser à ta job. Là. Mais récemment, Microsoft, pour tout ce qui est la suite Office, là, ils ont augmenté le prix de 45%. Il n'y a pas une crise de compagnie qui va arrêter d'utiliser la suite Office. Tout le monde, a le, bras, tout le monde a le bras pogné dedans. T'sais. Fait qu'il y a clairement, cette compagnie-là, à ce niveau-là, a clairement une emprise sur sa clientèle.
Mm. Ouais.
La clientèle en dépend. Tout le monde est intégré là-dedans. Les courriels rentrent, tout. Fait qu'il augmente le prix de 45%. Les profits vont augmenter en même temps. Le cours de l'action va augmenter. Puis tout le monde ne peut rien faire avec ça. Même chose pour tout ce qui est... Il y a une compagnie qui s'appelle HubSpot, qui est un système de gestion client. Demande à n'importe quel business, la pire chose à faire, c'est de changer de système parce que toutes tes choses sont dans un, puis là, il faut que tu fasses un transfert.
T'aimes mieux plus payer.
Mm. Fait que eux autres, ils ont augmenté leur prix récemment. Ils n'ont pas perdu un seul client. La croissance continue de se faire parce que tout le monde dépend de ces compagnies-là. Fait que souvent, c'est ce qu'ils appellent des SaaS, là, où c'est vraiment le software, fait que le logiciel qui est le service. T'as quasiment pas d'inventaire, t'as quasiment pas de local. Tout ce que tu fais, c'est essentiellement offrir ton expertise puis augmenter des prix en conséquence.
Commandement numéro 8 pour les nouveaux investisseurs en bourse. Hey, ferme ta TV!
Ouais. J'ai failli le mettre de même, puis je me suis dit, ah, le monde n'a pas le référent. Mais
Moi, je suis pas grave, je me risque.
C'est bon. les nouvelles financières, c'est vraiment le pire ennemi qu'on peut avoir. Parce que, je prends toujours le même exemple, et si... À chaque fois qu'il y a un avion, tu sais, parce que les avions descendent des fois ici. Là. Mm-hmm. Si à chaque fois qu'il y a un avion qui se pose à Jean Lesage, Audrey vous arrête et dit Guys, il y a un avion qui vient de se poser.
Bon, on faisait ça dans le temps qu'on pensait que les Nordiques allaient revenir, ouais, mais ça, c'est un autre dossier.
Mais ça ralentit le groupe.
Oui, ça ralentit le groupe beaucoup, oui, en effet.
À un moment donné, vous allez dire c'est parce qu'on s'en sac, Audrey. Là. Ouais. Mais s'il y a un avion qui s'écrase, là, on veut qu'elle le dise. Fait une bonne nouvelle, une compagnie qui augmente ses bénéfices, que tu sais une compagnie qui, à chaque trimestre, augmente son bénéfice.
Qui vit sa vie, là.
Personne ne parle de ça. C'est la pire nouvelle ever, là. Alors qu'une nouvelle où, OK, tel marché a perdu 20%, tel a perdu... Ça, c'est une nouvelle, tu sais. Puis il y a CNBC, là, aux États-Unis, qui est comme le channel boursier, là. Que là, tous les CEOs, ils s'en vont faire des entrevues, là.
Ouais.
Eux autres, ils ont une émission, puis ils ont comme un... À chaque fois que les marchés fluctuent beaucoup... Il y a un programme, ça s'appelle « Market in Turmoil ». Puis là, ça flash en rouge, puis là, t'as des
grosses animations. C'est sûr qu'ils vont pas bien. Puis,
c'est
tout,
ça.
Tout pour te créer des crises d'angoisse puis des crises de panique. Là.
Ouais, fait que là, les marchés vont pas bien. Puis tu sais, j'ai mis un petit tableau, là, mais pour l'imager, là, ils ont fait une étude. À chaque fois que CNBC met le headline « Market in Turmoil », ils sont allés chercher les rendements un an après ça. Puis c'est jamais arrivé dans l'histoire qu'un an après l'émission spéciale qui dit que la fin du monde approche, que les rendements sont négatifs.
C'est pas arrivé.
C'est jamais arrivé. Fait que si toi, t'es dans ton divan, tu te dis, tabarnouche, market in turmoil, je vais tout vendre, mais t'avais juste à fermer ta TV, aller écouter autre chose, puis t'aurais continué de performer. T'sais.
Commandement numéro 9?
Risky business. L'idée, c'est de dire ce qu'on disait tantôt. Si tu dis, OK, je veux investir sur les marchés, je veux acheter des actions, mais je veux pas prendre de risques,
t'as pas d'affaires là. OK.
Si tu dis « j'investis dans une compagnie », ça se peut que le lendemain matin, tu sois à moins 5%, tu sois à moins 10%. Ça dépend toujours de comment tu sélectionnes. Ça dépend toujours de à quel moment tu entres ou tu sors du marché. Fait que ça vient avec un risque. Ça, c'est clair, c'est sûr et certain.
Commandement numéro 10?
14%.
Ça veut dire quoi, ça?
Ça veut dire, puis ça, je le vois beaucoup dans des dossiers où des gens sont investisseurs autonomes. La planification financière, c'est 7 champs distincts l'un de l'autre.
Okay.
Fait que les placements, c'en est un. T'as tout ce qui est fiscalité, t'as les aspects légaux, t'as les protections, t'en as 7. Fait que souvent, les gens vont mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps puis beaucoup de ressources dans le placement. Mais t'as coché une des 7 cases essentiellement. Là. Souvent, ces gens-là, ils ont des grosses lacunes au niveau fiscal, ils ont des grosses lacunes au niveau des aspects légaux. Il y a des affaires dans leur planification financière qui ne marchent pas. Fait que si tu es en secondaire 2, tu arrives chez vous avec ton résultat d'examen, tu montes 14% à ta mère, ça marche pas. Tu n'auras pas ton nouveau bâton de hockey. Là. Fait que l'idée, c'est de dire, oui, évidemment, le placement, peut-être que c'est le plus important puis c'est le plus gros générateur de richesse, mais tu as un paquet d'autres cases à aller cocher aussi. Fait que l'idée, c'est de dire, OK, priorise-le, oui, mais tu as d'autres besoins qui viennent aussi. Fait que... 1/7, c'est bon, mais tu veux cocher les autres aussi.
Hey, question peut-être intéressante, parce qu'il y a des gens qui ont le goût de se lancer, malgré tous ces avertissements-là, là, mais tant mieux, là, vous êtes avertis. Quelqu'un qui veut commencer, c'est quoi les plateformes fiables sur lesquelles se lancer?
Il y a Dysnat, qui est la plateforme de Desjardins.
Okay.
Moi, je pense qu'elle est meilleure que les autres, mais elle est vraiment laide. non, pour le monde, c'est important des fois, parce que justement, si tu as peut-être moins de connaissances, mais les graphiques sont tout croche, peut-être tu ne les comprendras pas.
Okay.
Wealthsimple est peut-être moins bon au niveau vraiment de ce que tu peux faire dessus, mais au niveau de l'expérience client, ils sont vraiment supérieurs. Il y a Questrade aussi. Mais idéalement, allez valider si ces plateformes-là, ces trois-là le sont, là, mais avant d'aller sur une plateforme, allez valider sur le registre de l'AMF toutes les plateformes qui sont « legit », elles sont sur le registre de l'AMF. Ça veut dire qu'il y a les antécédents criminels des gens qui ont été validés. Y a tout est correct, là.
Fait que dans le fond, là, j'essaye de créer une image, si tu sautes pas de flotteur dans le plus creux de la piscine, faut que tu saches nager.
C'est un petit peu ça.
C'est un petit peu ça, le marché boursier.
C'est un petit peu ça.
OK. Hey, Alex Leblon, planificateur financier, merci beaucoup.
Merci à vous autres.
Il est 16h09. Vous êtes à Boulevard 102.1, c'est Gravel dans le retour. On va faire une courte pause et on revient dans pas long. Vous dire que s'il y a quoi que ce soit sur les routes ou ailleurs, évidemment, c'est le 418-971-1021.
Pour joindre l'équipe de Gravel,